Vous écoutez On lit pour vous.
Quand l'IA se mêle des relations amicales. Un texte de Marissa Grosgué, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Les agents conversationnels d'intelligence artificielle ne cessent de s'intégrer aux différentes strates de nos vies. En amitié, en plus d'être un conseiller, l'IA peut formuler nos communications à notre place. Un outil comme un autre ou une trahison? Ou tracer la ligne lorsqu'un robot s'immisce dans nos relations amicales? Les prénoms sont fictifs pour que l'anonymat des intervenantes soit préservé pour ne pas nuire à leurs relations personnelles et professionnelles. Il y a quelques mois, Mia a traversé une grosse peine de cœur amicale, une rupture qui l'a ébranlée. Elle a tenté d'écrire une lettre d'adieu pour tirer un trait sur la relation. « J'étais dans tous mes états », raconte-t-elle. « Dans ma tête, je savais ce que je voulais dire, mais plus j'écrivais, plus je braillais. » Pour mettre de l'ordre dans ses idées, Mia s'est tournée vers ChatGPT. Elle a donné à l'outil d'intelligence artificielle des instructions. Conserver ses formulations et ses mots pour ne pas dénaturer son propos et pour respecter sa façon de s'exprimer. En utilisant la fonction de conversion par synthèse vocale, text to speech, elle a pu énoncer à voix haute, ses pensées, pendant que l'IA en faisait un texte cohérent. Elle l'a ensuite relu pour faire quelques modifications, puis l'a envoyé. J'avais quand même honte. C'est quelque chose de sérieux et j'utilisais l'IA pour le faire, confie la jeune femme. Mais ça m'a vraiment allégée mentalement. J'avais besoin de décharger quelque chose d'émotionnellement éprouvant. Dans son cas, ses émotions l'ont poussé à se fier à l'IA. Mais l'utilisation des agents conversationnels dans un cadre amical se déploie de plusieurs façons et pour différentes raisons. Les gens utilisent notamment l'IA pour des besoins communicationnels et émotionnels parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, explique Dave Anctil, professeur de philosophie et d'intelligence artificielle au Collège Jean de Brébeuf. Il réalise que ce sont des compétences super importantes, mais ne sont pas forcément formées pour ça. Et plusieurs personnes cherchent à avoir un interlocuteur pour désamorcer une situation ou avoir un avis rétroactif sans nécessairement pouvoir ou vouloir le faire avec leur entourage. Depuis 2022, lorsque l'agent conversationnel ChatGPT a été lancé, l'utilisation de l'IA dans des contextes personnels est devenue très, très répandue, souligne Dave Anctil. Et depuis 2025, précise-t-il, les trois principaux usages de l'IA générative revêtent un aspect relationnel. Le coaching de vie, conseil, la psychothérapie et l'attachement de nature amicale ou romantique avec l'outil. Être à la hauteur. Emma, elle, avait pris l'habitude de se tourner vers un outil conversationnel pour écrire des messages d'anniversaire à ses amis par texto, entre autres choses. L'envie de maintenir ses connexions, additionnée à la pression d'être socialement acceptable, l'a poussée à avoir recours à l'IA. ChatGPT pourra créer une version structurée, sans faute, bref, supérieure de ce qu'elle souhaite communiquer, pensait alors Emma. Des fois, ça dit ce que tu penses mieux que toi. Alors, pour une carte offerte à sa sœur, qui venait d'obtenir son diplôme, Elle a entraîné son outil pour qu'il concocte un mot à la fois personnel et bien structuré. Les interactions écrites sont normatives et chargées d'un jugement par rapport à la qualité. Soulève, Marie-Jean, Meurs, professeur au département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal. L'utilisation de l'outil génératif dans les milieux professionnels a été déterminante. Le glissement dans la sphère privée n'est pas étonnant. Le recours à l'IA s'explique, selon elle, par le fait que de nombreuses personnes ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments et à en faire part à leurs proches. Mais c'est l'outil qui écrit, pas vous. Alors que quand c'est vous, vos proches vont vous reconnaître dans la petite faute de syntaxe attendrissante que vous faites toujours. Ça va montrer que ça vient du cœur. Récemment, Emma a pris la parole durant les funérailles d'un ami de sa famille. Son premier réflexe, se servir de ChatGPT pour rédiger son discours. Mais puisqu'elle s'interroge ces derniers temps sur les raisons de son utilisation de l'IA, elle a finalement décidé de l'écrire elle-même. Ça s'est super bien passé et ça m'a rassurée sur le fait que je suis encore capable de faire ces choses-là moi-même, dit-elle. Avant, j'avais du mal avec le fait que l'IA va exprimer les choses mieux que moi, mais je me suis rendu compte que ça peut mettre un filtre entre nous et les gens. La proximité passe par l'authenticité. Et si tu polis trop ce que tu exprimes, tu le dépersonnalises. Devant l'idée qu'il faudrait apprendre à mieux s'exprimer plutôt que de se fier à l'IA, Marie-Jean Meur souligne que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas évident pour tout le monde, et pour formuler ses émotions ou son ressenti dans la sphère privée, on a souvent besoin d'être précis. Et ce n'est pas toujours facile, dit-elle. La capacité d'avoir un outil qui va nous aider à traduire ce que l'on souhaite dire, ce n'est pas forcément négatif. Une éthique évolutive. Rose est bien placée pour savoir que le recours à l'agent conversationnel dans les relations personnelles peut être perçu négativement. Une amie et collègue lui a écrit pendant des mois en se servant de ChatGPT, ce dont elle s'est aperçue par hasard en utilisant l'outil sur le compte commun de leur employeur. Elle copiait-collait mes messages de nos conversations sur Teams et sur Messenger et ChatGPT répondait. Et elle copiait-collait la réponse telle quelle, raconte Rose. Je pensais que je parlais avec cette personne, mais pas du tout. Je parlais à un robot. Je me suis fait flouer. Je trouve ça surréel. N'ayant plus de lien avec cette ancienne amie, elle ne s'explique pas ce qui la poussait à agir ainsi. D'un point de vue éthique, ne pas dévoiler que les conseils de l'IA ont été utilisés pour formuler sa communication relève d'un manque d'honnêteté et de transparence, croit Dave Anctil. Selon lui, toutefois, l'éthique doit être vue de manière évolutive. Lorsque l'on requiert l'aide de l'IA pour mieux communiquer, nous devenons co-auteurs de notre communication, puisqu'elle se base sur nos émotions et idées, argue Dave Anctil. Est-ce bien différent du fait de s'adresser à des proches pour des conseils? Certains diraient que oui, d'autres que non, estime-t-il. La raison pour laquelle les gens réagissent et voient un préjudice ou un tort dans cela, c'est que nous n'avons pas encore internalisé de nouvelles normes éthiques et sociales sur ces sujets, selon Dave Anctil. On perçoit un usage de l'IA comme une forme de tromperie, ce qui peut parfois être vrai. et une forme de déshumanisation de nos communications. Ce qui peut aussi, parfois, être fondé, mais pas toujours. Nous vivons depuis peu avec une technologie pouvant communiquer avec nous et, partiellement, nous comprendre. Alors, nous vivons une forme d'incertitude quand nous lui confions des rôles normalement joués exclusivement par l'humain. C'était quand l'IA se mêle des relations amicales. Un texte de Marissa Grogué, paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
Symbole. Le mot de la semaine, un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mai 2026 dans La Presse. Quel est le mot qui a attiré notre attention dans l'actualité cette semaine? Que révèle-t-il? Notre chroniqueuse se penche sur la question. Qu'arrive-t-il lorsqu'un symbole accepte de jouer un rôle symbolique? C'est ce qu'on découvrira lorsque Louise Arbour sera assermentée comme gouverneur général du Canada en juin 2026. De quoi Louise Arbour est-elle le symbole, demandez-vous? Cette ancienne juge de la Cour suprême du Canada, procureure en chef au Tribunal international de La Haye et haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, symbolise la puissance, le leadership et l'autorité morale au féminin. Qu'elle ait accepté l'offre du premier ministre Carney d'occuper le rôle d'un chef d'État symbolique, représentante de la monarchie britannique au Canada, peut donc paraître étonnant. Le temps nous dira lequel des deux symboles aura le plus d'emprise sur l'autre. De son côté, Christine Fréchette n'est pas insensible aux symboles. Elle y a eu recours pour souligner son arrivée à l'Assemblée nationale à titre de première ministre, la deuxième femme à occuper ce poste dans l'histoire du Québec. À l'occasion de son discours inaugural, elle avait convié quelques femmes au Salon Rouge. Chacune dans leur domaine, ces femmes, dont la sénatrice Inou, Michèle Odette, et l'ex-chef d'antenne Sophie Thibault, sont reconnues pour avoir fracassé un plafond de verre. Elles sont des représentations de l'avancée des femmes dans des institutions qui leur ont été longtemps fermées. Leur présence était peut-être un porte-bonheur pour Christine Fréchette qui ne manque pas de travail, seulement de temps. Parlant de symboles, celui du Canadien de Montréal vibre très fort ces jours-ci. La jeune équipe dirigée par Martin Saint-Louis incarne toutes sortes d'aspirations et de rêves, individuels et collectifs. L'unité d'un peuple, même si elle est fragile. L'identité québécoise, dont les contours sont parfois flous, et les débats l'entourant, épuisant. Symboliquement, la victoire du Canadien au premier tour des séries éliminatoires a déposé un voile doux sur notre fatigue collective, un peu de fun dans une époque qui en manque drôlement. Les réussites du CH ne dureront peut-être qu'un printemps, mais comme la floraison des magnolias, il faut en profiter pleinement pendant que ça dure. Parfois, les symboles s'imposent malgré nous. Il suffisait de regarder le défilé de vedettes et de milliardaires sur le tapis rouge du gala du Metropolitan Museum of Art, le célèbre Met Gala, le lundi 4 mai pour le constater. L'impact de cet événement mondain qui se tient chaque printemps à New York a largement franchi le cercle des biens nantis et l'univers de la mode et de la scène mondaine. Trois jours plus tard, les observateurs le décortiquaient encore. Si les tenues parfois extravagantes, toujours somptueuses et originales, ont attiré les regards, c'est peut-être ceux qui n'ont pas foulé le tapis rouge qui ont le plus fait parler d'eux. Les milliardaires de la tech, les Bezos, Zuckerberg et compagnie, ont préféré ne pas se montrer devant les caméras, conscients, sans doute, que leur présence serait clivante, mais même invisible, ils symbolisent un changement de garde. Après les vieilles fortunes, les dynasties politiques et les stars du cinéma, c'est au tour des bros de la tech de régner en roi et maître symboliquement parlant. Leurs sujets, en particulier les employés d'Amazon, ont profité de cet événement très médiatisé pour faire entendre leur voix et pour organiser quelques coups d'éclat, comme ces films projetés sur l'immeuble qui abrite le penthouse du couple Sanchez-Bezos, ou ces fioles de fausse urine disséminées dans le musée qui accueillait le banquet. Les employés d'Amazon se sont déjà plaints de devoir uriner dans une bouteille pour ne pas ralentir la cadence. Amazon avait démenti ces informations. Les grands créateurs de mode ne sont pas les seuls à avoir fait preuve de créativité ce soir-là. Le Met Gala 2026 est devenu le symbole de quelque chose qui le dépasse et qui n'a plus rien à voir avec la mode ou l'art. D'un côté, des ultra-riches et leurs excès, et de l'autre, les gens ordinaires qui peinent à payer le loyer et l'épicerie. D'un côté, des gens qui veulent s'amuser, pendant que de l'autre, la population se demande où va les mener cette guerre contre l'Iran dans laquelle le président des États-Unis s'enlise. Les symboles sont importants, ils parlent parfois plus fort que les mots. C'était « Symbole », le mot de la semaine, un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mai 2026 dans la presse.
Je pense que j'étais dans ma bulle. Un texte d'Isabelle Morin, paru le 17 mai 2026 dans la presse. Première lectrice des réflexions de ses élèves, Isabelle Morin, professeure de sociologie au Cégep, en vient à se dire que les sciences sociales ont le pouvoir de nous apprendre à mieux vivre ensemble. Ils sont devant moi, la tête penchée sur leurs feuilles, fin de session oblige, c'est le temps des évaluations. Certains écrivent frénétiquement, d'autres effacent, recommencent, regardent en l'air à la recherche de l'inspiration ou des mots que la prof souhaite lire. Je trouve ça beau de les voir travailler avec leur tête, un crayon et une feuille de papier, et se creuser les méninges, comme disait ma grand-mère. Ils produisent donc un texte, une brève analyse sociologique d'eux-mêmes, dont j'ai eu le privilège de corriger les plans. Ces bribes d'eux, du moins des traces qu'ils choisissent de laisser sur ce cahier d'examen, me font réfléchir. D'autant que le contexte social ici et ailleurs me trouble profondément. Eux aussi, d'ailleurs. Dans leurs mots, plusieurs prennent conscience, grâce au cours, de leur privilège, d'être chanceux, d'être nés dans leur famille. Je ne pensais pas que des gens n'avaient pas accès à tout ce que j'ai eu. Sans être riche, j'ai toujours pu faire du sport et voyager. Je ne m'étais jamais rendu compte comment l'école est injuste et comment elle reproduit les classes sociales. J'ai été dans une école privée, je pense que j'étais dans ma bulle. Madame, votre cours m'a permis de mieux me comprendre et mieux comprendre d'où je viens. Je comprends mieux maintenant pourquoi moi et d'autres filles, on développe des troubles alimentaires, qu'on se juge sévèrement en pensant que les autres sont mieux que nous. Ce ne sont là que des fragments de leur réflexion. Je garde pour moi les plus intimes et les confidences bouleversantes. Et me viennent alors en tête les paroles de l'amoureux, lors d'une soirée relaxe gin tonic et musique. Sans t'avoir connu, jamais je n'aurais été initiée à la lecture du monde que tu offres à tes jeunes. Je ne comprends pas pourquoi, en technique, nous n'avons pas de sociologie. Ça m'aurait tellement aidé. Effectivement, pourquoi? Pour toutes sortes de bonnes raisons sans doute. Mais après tant d'années à enseigner, à observer mes jeunes et le monde, à lire des reportages, regarder des documentaires, lire des articles et des résultats de sondages et d'études, je conclus que le monde a besoin de plus de sciences sociales. Nos jeunes y ont été initiés, bien sûr, dans leur parcours primaire et secondaire, mais considérant la maturité normale à l'adolescence, il me semble évident qu'une répétition et un approfondissement s'imposent. Comprendre les rapports de pouvoir. Entre autres, pour mieux comprendre les rapports de pouvoir entre divers groupes sociaux, entre les genres, entre les personnes issues de l'immigration ou de la diversité neurotypique. Ça ne peut être que bénéfique pour la suite, il me semble. Être initié au regard critique sur les réalités sociales structurée par des disciplines en s'éloignant des lieux communs et des détours faciles, ne peut plus être réservé à ceux et celles qui empruntent le chemin préuniversitaire des sciences humaines. Je souhaite que tous ceux qui suivent les cheminements techniques, de formation professionnelle, des sciences naturelles et de santé, bénéficient aussi d'un accès aux sciences sociales. Qui ne vit pas en société? Qui n'appartient pas à une organisation, à des groupes, à une famille? Qui n'a pas besoin de comprendre, ne serait-ce que minimalement, les enjeux politiques, économiques, environnementaux, sociaux? Comment comprendre l'écart entre les hommes et les femmes quant à leurs orientations politiques, idéologiques? Comment mieux se prémunir contre les algorithmes qui rythment nos vies ou l'influence galopante d'influenceurs pseudo-machin-trucs qui prétendent, eux, savoir? Qui a le luxe de ne pas se comprendre assez soi-même pour être ouvert à soi et à l'autre? Évidemment, l'école n'est pas la seule voie pour arriver à peaufiner sa lecture du monde, mais elle est sans aucun doute l'instrument le plus rigoureux, le plus accessible et le plus disponible. Bien sûr, il faudra adapter les contenus, adopter des stratégies pédagogiques pour les jeunes et moins jeunes qui ont soif de concret et à qui rebute, plus souvent, l'abstrait. Surtout, il faudra accepter de leur faire une place. J'ai confiance, le contexte actuel le commande. C'était « Je pense que j'étais dans ma bulle », un texte d'Isabelle Morin, paru le 17 mai 2026 dans la presse.
Leçon de démocratie d'un monarque à un autre. Un texte d'Yves Boisvert paru le 29 avril 2026 dans la presse. Ce n'était pas une ironie de l'histoire, mais une ironie aux proportions historiques. Au moment où les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à célébrer les 250 ans de leur république, c'est le roi du pays avec lequel ils ont rompu qui vient leur faire une leçon de démocratie. Il a fallu 163 ans pour qu'un roi de Grande-Bretagne mette les pieds aux États-Unis après la guerre sanglante qui a vu naître le pays. C'était George VI, le grand-père de Charles, en 1939. Les forces du fascisme progressaient en Europe. C'était avant que les États-Unis se joignent à la défense de la cause de la liberté. « Nos valeurs communes ont prévalu », a dit le roi Charles III mardi le 28 avril 2026, lors d'un discours devant les élus du Congrès américain. Il a rappelé que le Bill of Rights américain s'est inspiré en partie de la Déclaration des droits en Angleterre en 1689 et même de la Magna Carta de 1215, que la Cour suprême des États-Unis a citée 160 fois dans ses jugements. Il a reçu une ovation en soulignant que le Royaume-Uni, comme les États-Unis, sont fondés sur la primauté du droit. La stabilité et la clarté des règles, un pouvoir judiciaire indépendant pour résoudre les différends et rendre des jugements impartiaux. Républicains comme démocrates ont longuement applaudi. Qui peut être contre cela ou la tarte aux pommes? Après tout, le souverain n'a critiqué personne. 20 minutes après ce discours du roi, le département de la justice faisait une conférence de presse pour annoncer un nouveau dépôt d'accusation criminelle contre un vieil ennemi de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI, James Comey. Trump avait fait déclencher des enquêtes sur Comey dans son premier mandat, notamment par le fisc, sans succès. Une première accusation criminelle pour menace de mort a été déposée l'automne dernier, mais rejetée par un juge pour vice de forme. Et voilà que le département de la justice, qui a perdu son indépendance face au président, remet ça. Quelle menace de mort! Comey, en vacances à la plage, avait pris une photo de coquillage formant les nombres 86 et 47. Or, dans le jargon populaire, 86 signifie « annuler » ou « se débarrasser d'une chose ». Dans certains milieux, cela veut dire « tuer ». Et 47 est une allusion au 47e président, Trump en l'occurrence. Comey, qui n'a jamais caché son mépris de Trump depuis qu'il lui a demandé s'il serait loyal au début de sa première présidence, se défend en disant qu'il ne savait pas que cela pouvait avoir une connotation violente. Quoi qu'il en soit, Trump a personnellement demandé le dépôt d'accusation contre Comey. Ce qui est, évidemment, une violation des principes de séparation des pouvoirs les plus élémentaires dans une démocratie. On apprenait aussi que la Commission fédérale des communications, FCC, l'équivalent de notre CRTC, a déclenché une enquête pouvant mener à la suspension du permis du réseau ABC à la suite d'une plainte de Melania Trump. La première dame s'est dit insultée par un monologue de Jimmy Kimmel et a carrément appelé ABC à s'en débarrasser. Brendan Carr, président de la FCC, le pantin nommé par Trump le premier jour de sa présidence, a maintes fois démontré qu'il a compris son mandat. Faire pression sur les réseaux de télé en faveur du président, intimider les esprits indépendants. Tout ce qui ne devrait jamais arriver dans une démocratie constitutionnelle digne de ce nom. Un roi du Royaume-Uni n'a aucun réel pouvoir et il n'était pas question d'attaquer de front la présidence de Trump. Au contraire, même, il a fait une fleur énorme au président, son cousin au 15e degré selon des généalogistes qui leur ont trouvé un ancêtre écossais commun au 17e siècle. On sait à quel point Trump est ébloui par la pompe et tout ce qui brille. La royauté britannique l'excite au plus haut point. Et voilà qu'au moment où sa popularité est au plus bas, le roi vient l'honorer de sa présence. Pendant ce temps, son petit frère Andrew, prince déchu, est devant la justice britannique à la suite de révélations contenues dans les dossiers de l'ex-copain de Trump, Jeffrey Epstein, en plus d'être soupçonné d'agressions sexuelles sur des mineurs. Tout cet énorme malaise a bien sûr été étouffé sous plusieurs oreillers diplomatiques. Ils sont nombreux à s'en scandaliser aux États-Unis. Charles a tout de même envoyé quelques messages pas si subtils sur l'esprit de générosité, le devoir de compassion, la promotion de la paix et l'importance de reconnaître la valeur de tous, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi. Il a aussi insisté sur l'importance de l'alliance atlantique entre l'Europe et l'Amérique, et d'ajouter « les mots des États-Unis comptent ». Ce qui revient à contredire à peu près tout ce qu'a dit et fait Donald Trump, sans jamais s'en prendre à lui, et à souligner la gravité des menaces constantes de Trump contre tout le monde, notamment celle, criminelle, d'éradication de la civilisation iranienne. Mais, républicains comme démocrates ont louangé le roi. Tous l'ont trouvé formidable. Cet Anglais, à qui l'on a remis une antique couronne du simple fait de sa naissance, venait pourtant de dire aux Américains, mais sans le dire vraiment, que leur président se prend pour une sorte de roi. Une sorte de roi autoproclamé qui viole les principes les plus sacrés de leur république, créé en 1776 pour se débarrasser du pouvoir de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. C'était « Leçon de démocratie d'un monarque à un autre », un texte d'Yves Boisvert paru le 29 avril 2026 dans La Presse.